9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue pour une matinée un peu exceptionnelle. Vous entendez peut-être, chers amis, bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
À quelques kilomètres de chez vous, autour de moi, dans une moiteur amazonienne que vous ne ressentez pas, mais on va vous la décrire, 80% d'humidité, des oiseaux, une faune absolument en forme, je le dois dire, le matin, toutes les espèces sont sorties. Je lève la tête, nous avons des ibis rouges, nous avons des chauves-souris, je suis tout près d'un anaconda vert, c'est-à-dire le plus grand serpent du monde. Où suis-je avec vous? Je suis au Parc Géologique de Paris avec tous nos invités qui nous éclairent jusqu'à 10h à l'occasion des 5 ans de la réouverture de ce parc, dans une nouvelle charte, dans une nouvelle démarche aussi, qui pense d'abord au bien-être animal, à la préservation, à la conservation des espèces. C'est tout cela que nous mettons en jeu. On fait un beau tour de la question avec des spécialistes, des aides-soignants, des soigneurs-plongeurs, spécialistes des loups, des girafes, des rhinocéros, des lamantins, des jaguars, des babouins. Ils sont venus, ils sont tous là pour vous éclairer. Et puis à partir de 10h, on vous le disait, on célèbre la carrière d'un grand chanteur, 55 ans de carrière, une nouvelle vie au théâtre à la rentrée. C'est Michel Sardou en archives et en musique. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous suivre également sur le Twitter d'Europe 1, hashtag Europe 1. C'est le sommaire jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec les invités que je vous présente tout de suite, qui sont là pour être vos yeux et vos oreilles ce matin, Fabrice Bernard, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le chef soigneur du parc zoologique de Paris et on accueille nos auditeurs sous cette serre qui reproduit un climat magnifique, celui de l'Amazonie-Guyane. Il faut que vous nous décriviez un petit peu l'endroit.
Donc là, oui, on est vraiment dans la serre qui ressemble en quelque sorte à une sorte de zeppelin, demi-zeppelin.
Oui.
Et donc elle fait 17 mètres de haut, 100 mètres de long, 40 mètres de hauteur. Elle est composée d'à peu près 6000 feuilles de verre qui ont été cintrées sur place. Donc c'est assez exceptionnel de faire ce travail-là pour assurer donc du coup une température aux alentours des 24-26 degrés toute l'année et assurer surtout le bien-être maximum aux 200 animaux qui sont à peu près ici dans cet espace.
Certains d'entre eux sont en liberté totale. Hein, quand je le parlais des ibis rouges qui sont à 17 mètres de hauteur, là, qui nous regardent, et des chauves-souris et des paresseux, me disiez-vous, ils naviguent, ils sont là chez eux.
Voilà, exactement. Donc ils choisissent un petit peu leur territoire, bon gré mal gré. Ils choisissent un petit peu leur lieu de nourrissage. C'est eux qui décident exactement où ils ont l'intention d'être dans la journée. Et puis bon, on a nos repères hein, avec les soigneurs quand même, parce qu'il faut savoir un petit peu s'ils vont bien. Donc chaque matin, on a d'abord une première prise de contact avec des nourrissages qui permettent de savoir si les animaux ont passé, comment ils ont passé la nuit, si tout s'est bien passé. Quoi.
C'est un lieu luxuriant. Bruno David, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes président du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui êtes le gestionnaire, propriétaire de ce zoo. C'est un zoo d'État
sorte,
national, quelque part. Donc vous y allez régulièrement, vous y passez régulièrement. Vous ne connaissez pas que la ménagerie du Jardin des Plantes.
Voilà, c'est un des sites du muséum et on est très très fiers d'avoir ce zoo dans le giron du muséum.
Et d'avoir repensé aussi sa structure et l'accueil des animaux, puisque nous fêtons cette année les 5 ans de cette réouverture, avec, je le disais, on ne fera pas le tour, hein, 1200 animaux ici, et encore une fois, cette serre emblématique qui dit beaucoup du nouvel accompagnement de la philosophie des zoos aussi, aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment le bien-être animal qui nous guide, tout a été conçu autour de ça. Là, dans cette serre qui est absolument somptueuse, il y a une luxuriance de végétation incroyable. En fait, c'est une lutte entre la végétation et les jardiniers et les soigneurs pour qu'on puisse quand même voir aussi les animaux, que les animaux puissent continuer de s'ébattre. La végétation n'arrête pas de pousser, il faut vraiment la contrôler. Mais c'est absolument maintenant magnifique parce que les arbres ont pris toute leur place et les animaux circulent à travers cela. Il y a des animaux qui sont en liberté, il y en a qui sont quand même dans des cages. On a des serpents, donc on préfère quand même les voir plutôt séparés des visiteurs. Mais il y a aussi beaucoup d'animaux en liberté, donc c'est quelque chose de très vivant. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu.
Alors, on ne fera pas le tour du zoo qui fait 14 hectares aujourd'hui, évidemment, et on vous laissera le soin d'y aller. C'est ouvert en ce moment de 9h30 à 19h30. Alors, justement, le public n'est pas encore arrivé, mais les animaux commencent à sortir. On va les suivre. Dans ces 5 biozones aussi que vous mettez en scène, la Patagonie, le Sahel-Soudan, Madagascar, l'Amazonie-Guyane, nous y sommes, l'Europe aussi, avec, pour reproduire ces écosystèmes, tout un travail scientifique qui a été derrière, Fabrice Bernard, et que vous gérez aussi au quotidien.
Oui, tout à fait. Il y a eu d'abord le choix de la collection qui a été un gros travail avec tous les collègues du muséum. Et ensuite, une fois qu'on a...
La collection d'animaux.
Une fois que nous avons arrêté vraiment des espèces, il a fallu après travailler sur l'enclos pour savoir tout ce dont l'animal a besoin,
oui.
pour qu'il soit en situation de bien-être et que tout se passe particulièrement bien dans son enclos.
Alors justement, vous allez nous accompagner dans un enclos très particulier, celui des lamantins. C'est une espèce magnifique. Bruno David, vous avez un petit faible aussi pour ces mammifères très, très sensuels, je dois dire, qu'on a confondu peut-être à une époque avec les sirènes, parce qu'il y a ce côté-là aussi, très esthétique.
Oui, oui, c'est très esthétique. C'est un animal assez massif. On appelle parfois ça des veaux de mer. Et comme, bien sûr, dans ma vie de chercheur, j'ai été plongeur, il se trouve que j'ai plongé dans les Caraïbes et que j'ai pas eu la chance de voir des lamantins, mais j'ai plongé dans des écosystèmes où ils sont.
Oui.
Ils sont des gros animaux qui broutent les algues et les herbes qui se trouvent au fond de l'eau et on les nourrit de salade ici.
Alors eux, ils font pas de bruit, en revanche, ceux qui crient à côté de nous, ceux qui, les gros perroquets, là.
Donc là, c'est la haraille hyacinthe qui crie, qui sont de l'autre côté là-bas. C'est, donc c'est des haras bleus.
Ils sont magnifiques.
C'est très, très important.
Les plus gros perroquets du monde.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça.
Oui. Et ils ont faim?
Ben, ils attendent que les soigneurs arrivent, hein, vu que c'est tout le début. Là.
Bon, eh bien, on vous suit en balade, chers amis. Le temps de la pause, on va se diriger vers l'enclos justement de lamantins sur une plage dédiée pour le nourrissage de ces animaux. Alors, ma chère Julie, mes chers amis, on est vos yeux, vos oreilles aujourd'hui. On pense à vous et on a envie de communier justement de la beauté que l'on voit autour de nous. A tout de suite sur Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard pour une heure de balade en direct dans les allées du Parc zoologique de Paris.
Et oui, ma chère Julie, à l'occasion des 5 ans de la réouverture de ce zoo, nouvelle formule, nouvelle philosophie, et on vous l'explique jusqu'à 10h, il y a 300 zoos en France à peu près, mais 3 zoos gestion nationale, disons, notamment le zoo, le parc zoologique de Paris. Et alors, on a quitté la serre tropicale, je suis toujours avec Fabrice Bernard, qui est chef soigneur dans ce parc, et nous allons naviguer vers le bassin des Lamantins, autre ambiance à la lisière de cette grande serre. On a poussé les portes pour vous retrouver. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Bastien Servière, vous qui êtes soigneur plongeur. Alors on va un peu décrire cette fonction dans un instant, mais vous avez un plateau repas entre les mains.
Oui, on va faire le petit déj des lamantins tous ensemble.
Alors qu'est-ce qu'il y a?
Mais en fait, on retrouve un petit peu de tubercule. On a donc de la betterave, de la carotte, et puis on a des compléments en fait qui sont étudiés avec dedans des céréales, un peu de banane.
Comme des croquettes, hein, des
voilà,
croquettes.
C'est le même principe.
Ça sent très bon, c'est végétal.
C'est végétal aussi.
Parce que ce sont des herbivores essentiellement.
Oui, principalement herbivores. Maintenant, il leur arrive bien sûr de manger, comme ils broutent au fond des algues, et bah, tout ce qu'il y a avec, hein, un petit peu de mollusques, un peu de protéines avec les crevettes qui remplacent.
Oui. Alors là, on est vraiment côté coulisses. Hein. C'est côté des professionnels qui gèrent ces animaux. Vous êtes 50 dans le parc à vous en occuper. Et ça fait partie des rituels du matin. Vous êtes sur une petite plage et vous allez donner cet encart.
C'est ça, on est au bord du bassin lamantin. Et puis, on va voilà, appeler nos animaux.
Ils sont quatre. Hein.
Ils sont quatre.
On va respecter aussi votre rituel dans le silence, quoique silence.
Donc on va essayer d'avoir tout le monde ce matin. Après, ça reste vraiment un appel libre.
C'est-à-dire qu'ils viennent ou pas?
Ils viennent ou pas.
Ils viennent ou pas, mais...
Donc on a une petite clochette.
D'accord.
Pour les appeler, ouais. Ils perçoivent dans l'eau.
Donc là, il faut qu'on imagine, on est accroupi. Hein. On est accroupi, ils tapotent sur l'eau pour essayer justement de faire venir ces quatre beaux spécimens qui mangent 30 kilos de salade par jour. Hein,
chacun, oui.
Pour aider chacun. Alors là, on en voit un arriver magnifique. Il effleure l'eau. C'est qui celui-ci?
Ça, c'est Kai. Ah, c'est le dernier arrivé.
Ouais.
Qui est arrivé de Guadeloupe.
Il a quel âge?
Donc Kai, il va arriver bientôt sur ses 10 ans.
Alors Kai, il arrive. On voit ses petites narines à fleur d'eau. Alors c'est une anatomie particulière. Hein. Comment décrire ce lamantin? Il y a un peu de l'otarie quand même.
Il y a un peu de tout. ça reste un mammifère marin. Souvent, on les appelle les vaches de mer parce que donc on les voit énormément brouter. Ils ont cette mâchoire en fait qui s'est vraiment élargie pour brouter un maximum.
Oui.
Et ils ont surtout un système au niveau de la lèvre supérieure qui va leur permettre de ramener l'alimentation. Elle est très musclée et mobile, ce qui leur permet de brasser un petit peu et de créer un courant d'eau qui va ramener les aliments vers le centre de leur bouche et de pouvoir après saisir les algues ou même les feuilles de bananier qui traînent sur les rivières. En fait, ils vont aller les saisir. Ils ont la possibilité de sortir la tête de l'eau. Ils profitent de toute opportunité pour manger.
Ils sont magnifiques et ils vivent. Alors là, ils respirent pas sous l'eau. Hein.
Ils sont en apnée. Hein. Ouais.
C'est ça. Donc ils sont obligés d'aller à fleur d'eau pour respirer. Il est beau celui-ci.
Là, on a le premier qui est arrivé, c'est Tinus.
Il a quel âge, lui, Tinus?
Alors, Tinus, il arrive à bientôt 30 ans.
30 ans. Et ça vit combien de temps, alors, à la fois à l'état naturel et en captivité?
Alors, après cette distinction, mais On a des animaux qui dépassent largement les 30 ans observés en milieu naturel et en milieu captif, en milieu parc zoologique.
Oui.
On a vraiment plusieurs individus sur toute la planète qui arrivent à 40, 45 ans.
Je suis obligée de vous poser un peu la question qu'on se pose, parce que là, ce sont des animaux qui font pour certains une tonne. Combien de mètres de long pour cela?
On est à 4-5 mètres.
4-5 mètres, ouais. Ils sont magnifiques, ils sont 4.
C'est vraiment un gros spécimen.
Vraiment, alors c'est difficile à décrire, parce qu'il y a un côté sirénéen, justement.
Oui.
Otaries, dauphins, ce que vous voulez, sauf qu'ils n'ont pas de
Il n'y a pas d'écailles, il n'y a pas de nageoires. Donc c'est une peau très rugueuse,
en fait. Est-ce que ce n'est pas trop petit pour cet espace? Comment vous avez conçu cet écosystème pour qu'il soit heureux, en tout cas, qu'il grandisse et qu'il évolue dans de bonnes conditions?
Alors déjà, on ne les met pas tout seul. L'idée, c'est sa vie en groupe, donc on va essayer de reproduire ça.
Oui, donc là, ils sont quatre et ils s'entendent bien, que des mâles.
Oui, pour l'instant, c'est que des mâles. Après, bien sûr, on attend au niveau des programmes européens, ça reste des étapes à franchir. Et ensuite, ils ne sont pas tout seuls dans le bassin. On a mis plein de poissons avec eux.
Oui.
Parce qu'en milieu naturel, on va avoir des animaux qui vont, lorsqu'ils sont en surface, croiser des poissons de surface. Lorsqu'ils sont au fond, croiser des poissons de fond.
Mmh. Et... Tu
peux
en donner un?
Oui, bien sûr. Et ainsi de suite. Donc ici, dans le bassin, on a mis des poissons de surface, qu'on appelle des arapaima, qu'on va nourrir aussi tous les jours, plusieurs fois. Et on a des poissons de fond, des oxydoras. Et ça permet d'avoir une vie complète en termes de sociabilité.
Et alors, pourquoi que des mâles aujourd'hui?
Que des mâles, en fait, c'est le bassin est nouvellement ouvert. En fait, on a ouvert l'activité Lamantin avec l'ouverture du parc en 2014. Et ensuite, quand on est jeune structure, eh bien, il y a des animaux qui sont disponibles. Et il y a des structures qui ont déjà une expérience de reproduction. On leur laisse vivre cette expérience. Et nous, on doit montrer notre expérience au fur et à mesure d'avoir des animaux qui s'entendent bien, d'avoir une structure qui a fait ses preuves. Et au fur et à mesure, une fois qu'il y a cette confiance qui est mise en place au niveau des institutions, eh bien, on aura à notre tour, une fois qu'une femelle sera disponible, et pourra être transportée.
Pour respecter un protocole aussi.
Voilà.
Alors ça y est. C'est lequel que je nourris, là?
Là, vous êtes en train de nourrir Tinus.
Tinus,
et vous voyez, donc, c'est
incroyable, parce que j'ai la main, on dirait comme une trompe d'éléphant au bout.
Hein, voilà, il y a un côté très, très mobile. Alors les moustaches sont souples au départ, et plus on s'approche de la bouche, plus elles deviennent piquantes.
Oui.
Et en fait, ce qui permet de piquer, justement, les aliments.
Au départ,
ça sert... un petit peu pour brasser, créer du courant.
Ouais.
Et plus ça s'approche, plus ça pique les aliments pour l'amener vers la bouche.
Ils sont très tactiles. Une fois qu'ils ont... parce qu'on les perturbe un peu, il faut dire. Hein.
Alors, tous les matins, on observe aussi, vous voyez, ils sortent bien la tête de l'eau,
oui.
La bouche.
Oui.
Donc, je vous disais que les nourrir le matin permet de faire un petit check pour faire un retour au service vétérinaire.
Oui.
Donc, nous, on a accès très vite au niveau de la respiration, on a accès au niveau des yeux, on a accès au niveau de la bouche. Et c'est souvent des zones, en fait, qui peuvent... avoir des petits traumatismes, et le fait de les nourrir proches,
oui.
Eh ben on va avoir des animaux où on peut détecter quelque chose.
Bien sûr.
Ce qui nous permet, vraiment de faire un retour vétérinaire le plus rapidement possible.
Et de plonger le cas échéant pour les soigner.
Oui,
vous plongez combien de fois par semaine?
Alors on plonge 2 à 3 fois par semaine dans ce bassin,
oui.
Lamantin. On a aussi des plongées dans le même rythme au bassin Otaries, d'où la fonction de soigneur-plongeur. Essentiellement pour nettoyer l'environnement, les vitres.
Oui.
On a la chance d'avoir des baies vitrées qui permettent aux visiteurs de voir les animaux sous l'eau. Eh ben, il faut que la vision soit possible.
Et donc, ça vous permet de faire le petit check-up.
Voilà. Et en plus, on a familiarisé les animaux à notre présence dans l'eau.
Oui.
Et on peut éventuellement faire des soins si besoin. Le principal se fait vraiment en aérien.
Oui.
Mais voilà, pouvoir les approcher sous l'eau, c'est pouvoir les observer et pouvoir faire un retour complet au véto.
Hier, on est allé faire un tiers pairage et on a vu un de vos collègues, Anthony, que je salue aussi. Fabrice, vous êtes le chef de ces soigneurs et vous représentez aussi ces nouveaux métiers, soigneurs-plongeurs, qui sont importants parce qu'à la fois, ils vous permettent en effet d'observer les animaux, de soigner, mais aussi de jouer, de respecter aussi des activités un peu ludiques qui leur permettent de s'éveiller, d'être toujours aussi, enfin, d'être bien dans leur tête, si j'ose faire un peu d'anthropomorphisme.
Oui, tout à fait. Comme vient de le dire Bastien, le medical training en fait partie justement de des séances qui peuvent être parfois considérées comme des séances de jeu, mais en fait, elles n'en sont pas. Et c'est important vraiment pour les animaux, pour leur équilibre aussi. Et là, vous voyez vraiment, il suffit juste de les appeler, ils viennent. Et là, on peut avoir déjà le premier contact de la journée avec eux. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler avec Bastien, j'étais en train de nourrir les autres. Mmh. C'était vraiment...
Ils sont magnifiques. Puis alors là, voilà, ils nagent, ils tournoient, ils valsent finalement. Et quand vous nagez avec eux aussi, ils vous accompagnent.
Exactement, ils sont. Alors en plus, ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'on les entend vocaliser aussi.
On les entend vocaliser dans l'eau, et échanger entre eux. Et ça, c'est aussi des grands moments quoi, qu'on peut avoir en... tout en étant avec eux en plongée.
Alors voilà, je recommande vraiment à nos amis qui nous écoutent, qui viendraient au parc zoologique de Paris, d'aller découvrir ces lamantins. Il y a aussi des lamantins au zooparc de Beauval, qui est un zoo privé, mais ce sont des espèces assez rares, qui sont des espèces aussi en danger, voilà, qu'on voit essentiellement aux Antilles aujourd'hui.
Voilà, alors au niveau de la liste rouge de l'UICN, hein, c'est des animaux qui sont considérés comme vulnérables. Donc c'est pour ça que l'action des zoos est vraiment très importante pour eux et pour leur conservation.
Ça en fait partie. Je remercie notre ami. Merci beaucoup, Bastien Servière. Voilà, un des soigneurs plongeurs de ce parc zoologique de Paris. On vous laisse parce qu'on a un peu perturbé le nourrissage de ces quatre beaux spécimens. À très bientôt.
Merci
et bravo
beaucoup
pour votre contribution aussi. Voilà, on va faire une petite pause. On va parler aussi avec Laurence Paoli maintenant, qui connaît bien le parc zoologique de Paris, de la conservation des espèces, de la philosophie de ces nouveaux zoos. Si vous êtes un peu réticent aussi, parce qu'évidemment, il y a toute cette notion de captivité. Mais on vous disait combien c'est important en termes de sensibilisation, de pédagogie. A tout de suite sur Europe 1.
On célèbre aujourd'hui les 5 ans de la réouverture du parc zoologique de Paris, l'ancien zoo de Vincennes. Et Wendy Bouchard est sur place jusqu'à 10h pour fêter ça.
Et oui, avec vous, nous sommes vos yeux et on tente de vous éclairer au mieux justement sur cette nouvelle philosophie des zoos. Un anniversaire qui est marqué par un week-end festif et par l'arrivée de représentants de 5 nouvelles espèces. On va y venir d'ailleurs en vous parlant des coatis. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien, c'est un peu une espèce entre lémurien et le raton laveur, mais les spécialistes nous vous diront ça mieux que moi. Fabrice Bernard est chef soigneur au parc zoologique de Paris. Il dit oui, c'est pas tout à fait ça, il a pas tort. Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est gestionnaire de ce parc zoologique. Et Laurence Paoli, qui est avec nous, qui connaît bien le zoo. Vous avez été dans la communication du parc zoologique de Paris pendant de longues années. Et vous publiez, chère Laurence, bonjour.
Bonjour.
Zoo, un nouveau pacte avec la nature, aux éditions Buchet-Chastel. C'est intéressant parce que c'est vraiment une question qui revient de manière récurrente pour les défenseurs et amoureux des animaux. On aime aller au zoo et puis il y a toujours ce paradoxe. Mais est-ce qu'on fait bien d'y aller? Est-ce que les enclos ne sont pas trop petits? Là, on est devant l'enclos des jaguars, qui est magnifique parce qu'il faut expliquer la nouvelle philosophie. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, on pouvait un peu bêtement d'ailleurs balancer des cacahuètes ou à manger aux animaux parce qu'il n'y avait pas de vitres comme aujourd'hui. On respecte aujourd'hui l'espace aussi naturel de l'animal en le gardant un petit peu à l'abri.
Oui, tout à fait. Oui, on est loin, loin maintenant de l'interaction facile avec l'animal où on peut le jeter à manger. Maintenant, on est vraiment sur le respect de l'animal et de ses comportements naturels. On essaye depuis un certain nombre d'années de créer des espaces qui leur permettent justement d'exprimer ses comportements naturels, de se cacher des yeux du public, de vivre une vie d'animal. Et on essaye aussi de plus en plus, alors pas avec les jaguars bien évidemment, mais d'avoir des présentations qu'on appelle nous mixtes, c'est-à-dire plusieurs espèces dans un même espace, ce qui leur permet d'avoir des interactions justement entre elles,
comme dans la nature. C'est ça.
Hein.
Alors là, bon, typiquement pas le cas des jaguars, évidemment. Le jaguar, le plus grand félin d'Amérique. Alors là, nous sommes à l'heure du lever, peut-être pour lui. Je ne sais pas s'ils ont des phases d'endormissement particulier. Fabrice Bernard, les jaguars. Mais il faut comprendre ça et respecter ça. Dans la nature, un animal dort, se cache aussi, ce qui est le cas aussi dans des zoos.
Oui, alors Wendy, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, les jaguars sont à l'intérieur, sont dans les loges.
D'accord.
Et que les soigneurs, d'abord, vont contrôler un petit peu la sécurité du plateau extérieur avant de pouvoir les faire sortir pour que les animaux soient dehors quand le public sera là. Quoi.
D'accord. On a ce qu'on appelle un enclos volière, Bruno David, voilà, qui a été conçu en prise aussi directe avec la nature. Puis des rochers qui peuvent être chauffés, rochers chauffants.
Oui, nous avons des rochers chauffants. Alors pour les lions, pas pour les jaguars.
D'accord.
Mais on a des rochers chauffants pour les lions. Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'en hiver, on les voit qui sont tous regroupés sur leurs rochers. Et ça fait un spectacle absolument
comme
extraordinaire.
Dans la savane, hein,
comme dans la savane.
Oui. Vous avez étudié ça aussi. On voit ce biotope hein, parce que là, c'est un terrain qui est en pente, qui est assez accidenté, avec du bois, avec des rochers, avec du terreau, avec des coins à l'ombre, évidemment. Il y a une reconstitution derrière une baie vitrée, voilà pour le dire.
Oui, on essaye vraiment de reconstituer un environnement qui soit le plus proche possible de celui de la nature dans laquelle vit l'animal. Donc ici, comme vous le dites, il y a des arbres, il y a un sol adapté, il y a des rochers où ils peuvent se prélasser, il y a des endroits où ils peuvent grimper un peu, il y a des endroits même où ils peuvent se cacher
oui.
aux yeux du public, ce qui n'est pas forcément parfait pour le public, mais qui respecte leur bien-être.
D'ailleurs, Fabrice, quand on va au zoo, il faut y passer une journée, on voit les animaux en général plus en éveil le matin. que l'après-midi ?
Ça dépend des espèces, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce zoo, surtout ici, c'est qu'à n'importe quel moment de la journée, il se passe des choses différentes. Les visiteurs du matin vont observer les animaux d'une façon un peu différente de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils pourront voir le soir, justement, aux alentours des 20h.
Oui.
Maintenant, on a un peu élargi les horaires, et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir des comportements complètement différents.
Ben c'est ça qui est bien, hein, pour prendre le temps aussi d'observer les comportements, Laurence Paoli.
Tout à fait. Et ce qu'on voit là, ce qui est très intéressant...
Alors là, on a bougé, nous sommes devant l'enclos des fameux coati, nouvelle espèce qui arrive pour les 5 ans du zoo.
Oui, alors ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que le parti pris là est vraiment quand même le parti pris du public et de l'animal, et c'est ça la complexité dans un zoo. C'est-à-dire que le public est servi par une énorme baie vitrée, ce qui lui permet de voir l'ensemble de l'enclos, mais l'animal peut se cacher sur tous les autres angles, c'est-à-dire que le public ne peut pas l'entourer. Et ça, c'est quelque chose de capital, et on a découvert ça de plus en plus en travaillant sur les animaux, leur comportement. Et là, par exemple, c'est un enclos parfait pour l'animal et le public, et c'est une réussite.
Les coatis, Bruno David, parce qu'on a quitté la grande serre tropicale, il faisait 26 degrés, 80% d'humidité, et là, on est dans le ciel parisien. Il fait beau, hein, mais 10 degrés. Sont des animaux qui viennent d'où ? Ce sont un petit peu vos chouchous du moment.
Alors, surtout, ce sont des animaux qui viennent d'arriver.
Oui, déjà.
Les coatis viennent d'Amérique du Sud et ils sont proches des ratons laveurs. On les reconnaît parce qu'ils ont une queue annelée, un petit peu comme les ratons laveurs. Simplement, ils ont un museau assez pointu.
C'est pas nul dans ma description, alors.
Non, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. C'était pas vraiment des lémuriens, mais c'est proche des ratons laveurs.
Oui.
Et c'est un animal très sympathique qui bouge beaucoup, il grimpe beaucoup, ils sont très arboricoles. Donc
on les a vus ce matin, regardez.
Dans l'enclos, on leur a mis beaucoup d'agrès. Puis on les voit, ils sont tous sur les arbres, là, sur l'arbre. Ils sont au sommet de l'arbre, ils grimpent le plus haut possible, ils dorment là-haut. Et ils vont se promener sur tous les agrès. Ils sont très, très mobiles dès qu'ils se mettent en activité. C'est formidable à regarder. C'est très sympathique. On a un peu envie de les caresser, mais on n'a pas le droit.
Ah oui, mais c'est une vraie piste d'agility, hein, que vous avez recréée ici, Fabrice Bernard. Et pour les soigner, parce que ce sont des nouveaux arrivants, vous connaissez déjà leur mode de fonctionnement ?
Oui, c'est ça. Avant de faire venir les animaux, on prend des renseignements auprès des collègues qui les avaient auparavant. Je tiens à signaler qu'en fait, tout ce travail a été fait par l'équipe des soigneurs animaliers ici du parc zoologique. Un travail vraiment formidable où ils étaient vraiment, ils ont laissé libre cours à leur imagination. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment des agrès. On est sur des présentations verticales. Hein. C'est important pour eux, vu que, comme vient de le dire Bruno David, c'est des animaux qui sont arboricoles.
Oui.
Donc, ils dorment principalement dans les arbres. Et la journée, en fait, ils vont fouiner un peu partout.
Avec un espace très ludique. Hein. Ouais. On fait une petite pause et on va reparler avec Laurence Paoli, justement, des stratégies de prévention, de protection, de sensibilisation des animaux. A tout de suite sur Europe 1. On retrouve Wendy Bouchard en direct du parc zoologique de Paris, nouvelle version, un parc qui héberge 1200 animaux pour 194 espèces représentées. Wendy ?
Oui, Julie, sur 14 hectares, on ne fait qu'un petit tour, évidemment pas exhaustif, à quelques minutes de l'ouverture du parc zoologique au public, de cette nouvelle version qui fête ses 5 ans aujourd'hui. Nous sommes avec des soigneurs, le chef soigneur Fabrice Bernard dans ce parc, avec Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle qui gère ce parc d'État, ce parc national, Laurence Paoli qui va nous parler de pédagogie et de sensibilisation dans ces eaux. Nous sommes avec Marion, toujours devant l'enclos des coatis. Marion, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes soigneuse et vous apportez aussi les soins alimentaires du petit matin à ces espèces qui viennent d'arriver et donc vous évoluez avec elles, vous progressez avec elles.
C'est ça, nous on les a eus dans l'enclos il y a à peu près une semaine, ils sont arrivés en quarantaine, il y a eu une mise en contact avec les chiens des buissons puisque c'est un enclos multi-espèces et nous notre travail c'est aussi d'apprendre à les connaître, donc là je vais aller leur donner le petit déjeuner, ce matin c'est des poires et des tomates.
Vous les trouvez comment les coatis là, depuis une semaine, comment ça se passe ?
Ça se passe très bien, ils prennent bien leur marque, ils ont vraiment chacun leur espace puisque les coatis c'est arboricole donc ils grimpent vraiment aux arbres et les chiens des buissons sont... au sol, et ils ont chacun leur petite cabane, donc ils ont vraiment pris place dans leur nouvel enclos.
Ouais, Fabrice Bernard, on peut dire que c'est une implantation qui se déroule plutôt bien, avec une mise en quarantaine, donc pour à chaque nouvelle espèce qui arrive, c'est-à-dire aussi pour une sociabilisation avec d'autres espèces, en l'occurrence le chien des buissons.
Alors c'est une étape importante, surtout au niveau sanitaire. Déjà, on fait quelques examens de copro, éventuellement prise de sang, etc. sur certains individus. Et une fois que les animaux sont sains, ils vont pouvoir du coup intégrer la collection sur le site. Mais nous aussi, on utilise cette période de quarantaine pour pouvoir sociabiliser les animaux entre eux. On n'aurait pas pu mettre tout ça ensemble comme ça directement sans avoir de contrôle. Donc il faut procéder étape par étape. D'autant plus que le mâle coati vient de Duisbourg en Allemagne. Les femelles viennent
personne ne se connaissait.
De l'île de Wight, donc personne ne se connaissait. Il a fallu les faire cohabiter entre eux petit à petit.
C'est passionnant de rentrer, évidemment, on ne fait qu'effleurer aussi votre travail et le travail des soigneurs, des vétérinaires au quotidien, Laurence Paoli. Mais c'est tout cela aussi qui est intéressant, la pédagogie de la mise en captivité quelque part.
tout à fait. La pédagogie, alors, la pédagogie est quelque chose d'essentiel. En fait, vous avez trois missions officielles pour les zoos, la conservation, la recherche et la pédagogie, appelée aussi sensibilisation. Les zoos dans le monde accueillent environ 700 millions de visiteurs par an. En France, on est à 20 millions. Vincennes, je crois, a 40 000 scolaires qui viennent chaque année. La pédagogie est un des rôles capitaux. On essaye effectivement de montrer ces animaux pour apprendre des choses au public qui vient les voir. Quand on connaît bien, on protège mieux ou en tout cas on fait plus attention. La pédagogie a un nouveau défi qui est maintenant de pousser les visiteurs à agir personnellement derrière dans leur quotidien, soit effectivement en faisant des dons, on va dire, sur des programmes de conservation, soit en agissant sur le tri sélectif, le choix de leur aliment.
Il y a beaucoup d'animaux à parrainer.
Il y a beaucoup d'animaux à parrainer et ça c'est très important parce que derrière ça permet alors, soit d'aménager davantage les enclos, soit surtout en général d'invertir sur des programmes in situ.
D'accord.
La pédagogie aussi maintenant est à un autre sens que moi je trouve fascinant. Là, il y a une science qui s'est développée qui s'appelle la psychologie de la conservation qui montre qu'actuellement on a un vrai problème de reconnexion avec la nature parce que le monde est de plus en plus urbanisé. En Europe, on est à 75% urbanisé. Et il est prouvé scientifiquement que les parcs zoologiques comme les parcs végétaux en fait sont des endroits où les enfants peuvent avoir ce qu'on appelle des expériences de nature, c'est-à-dire une approche de la nature qui va changer durablement leur attitude vis-à-vis de la nature, on va dire toute leur vie dans les parcs zoologiques. Et c'est pour ça, on revient sur justement les aménagements dont on parlait tout à l'heure, que les aménagements mixtes comme celui-ci, c'est-à-dire qui recréent les conditions quasi naturelles de deux espèces qui cohabitent ensemble, coatis, chien des buissons, plus substrat naturel, plus végétalisation, permettent aux gens d'observer des animaux qui ont des comportements, on va dire, quasi naturels ou proches de ceux qu'ils auraient dans la nature, de les observer et donc de faire ces fameuses expériences de nature. Et on est très loin des zoos d'antan que moi j'ai connus où effectivement les espèces étaient isolés, posés dans des espaces petits, sur du béton. Et donc, on avait ce contact avec l'animal qui avait son importance, mais pas du tout cette expérience de nature.
Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que vous avez fait des choix, Bruno David, puisque vous représentez aussi ces choix nationaux, quelque part. Il y a des animaux qu'on ne trouve pas au parc zoologique de Paris. On ne trouve pas d'éléphants, on ne trouve pas d'ours, parce que vous avez considéré que l'espace qui pouvait leur être dédié n'était pas suffisant.
Oui, pour les ours, c'est surtout parce que les ours prennent facilement des tocs, c'est-à-dire des comportements répétitifs. Etc. Vraiment des comportements qui sont désagréables pour le visiteur, désagréables pour l'animal aussi. Donc on n'a pas choisi ça. Les éléphants, c'est un problème d'espace. Mais je voudrais revenir sur les coatis. Alors, voilà, le soleil derrière, vous voyez ces animaux avec cette queue annelée. Ils sont bruns, c'est la taille d'un gros chat avec une queue un petit peu plus grosse, un museau pointu.
Ils apprécient les
tomates. Et puis il y a le soleil qui joue dans la fourrure, c'est absolument magnifique. On aurait presque envie de les caresser, comme je disais tout à l'heure, mais on n'a pas le droit de le faire.
On peut pas, mais vous le faites, vous, Fabrice Gérard, vous pouvez le faire ? Non, parce que ce sont les animaux dont vous respectez l'état sauvage aussi.
Tout à fait, il faut qu'il reste des coatis et pas des chiens ou des chats. Quoi.
Voilà, pas d'anthropomorphisme.
C'est interdit de toucher les animaux. Ça fait partie aussi des règles de zoo public, de faire très très attention à comment on traite les animaux. On ne fait pas sortir nos otaries avec une lance d'eau, un tuyau d'arrosage.
Oui,
ce n'est
pas un parc d'attractions aquatiques non plus. Quand on parlait d'activité, c'est plus pour les animaux que pour les visiteurs, évidemment. Quand vous parlez de nourrissage, parce que vous en offrez au public aussi, on est dans un rituel quotidien qui est juste leur nourrissage.
Et on a fait des choix d'espèces aussi, par exemple. On a pris des loups ibériques, qui sont peut-être moins spectaculaires que les loups de Sibérie, mais qui sont une variété de loups qui est en danger d'extinction. Et on a pris cette option pour préserver cette variété, cette diversité.
Eh bien, merci, puisqu'on parlait de pédagogie avec vous. Sachez qu'il y a plein de petits kiosques pédagogiques, d'espaces aussi, où vous apprenez beaucoup. C'est le moment de vous y arrêter, de ne pas tracer. Prenez la journée, vraiment, pour visiter le parc zoologique de Paris. Et puis, vous faites des haltes, et puis vous savourez aussi la nature environnante, parce qu'il y a un très bel écosystème dans cette nature printanière qui bourgeonne. C'est absolument magnifique. À tout de suite, Julie et chers amis auditeurs. Accompagné de ses invités, Wendy Bouchard parcourt jusqu'à 10h les allées du zoo, du parc zoologique de Paris. On la retrouve tout de suite, Wendy.
Et oui, là, ils sont quatre à nous contempler. On dirait un petit peu les Pumbas dans Le Roi Lion. Ce sont des sortes de gros sangliers, Bruno David.
Oui, ce sont des sortes de, je dirais, de petits sangliers. En fait, ils viennent du Mexique, du Chaco, une province mexicaine. Ceux-ci viennent du zoo de Berlin. Parce qu'évidemment, on ne prend pas des animaux dans la nature. On ne prend pas des animaux sauvages dans la nature pour les installer dans les zoos. Mais on prend des animaux qui sont nés dans d'autres zoos. Et il y a des programmes d'échange entre les zoos pour respecter, pour éviter la consanguinité et pour faire en sorte que la diversité génétique des espèces reste la plus élevée possible.
Ça veut dire quoi, programme d'échange ? C'est-à-dire qu'on ne se vend jamais des animaux ?
Non, on ne vend jamais les animaux. C'est vraiment des protocoles d'échange. Donc, on suit les animaux génétiquement. Donc, il y a une traçabilité généalogique de chaque animal. On sait quels sont ses parents, etc. Et ensuite, à partir de là, on organise des échanges entre zoos pour préserver un maximum de diversité génétique dans la population d'une espèce à travers l'ensemble des zoos européens, voire plus largement.
Comment on régule les espèces, Laurence Paoli? Il y a pas mal de polémiques qui considèrent que certains zoos pratiquent l'euthanasie justement pour éviter la consanguinité et qu'il y a forcément des pertes. Et ça, ça nous fait mal au cœur. Ça se pratique encore?
Ça, c'est un vaste débat. En fait, la régulation des espèces, normalement, est faite grâce justement à ces fameux programmes dont tu as parlé, d'échange, Bruno David. Mais ce n'est pas que de l'échange, en fait. Il y a un suivi très, très précis de la reproduction. Vous avez des coordinateurs pour chaque espèce qui fait l'objet d'un programme de ce type. On ne reproduit pas n'importe qui avec n'importe qui. On essaye en fait de garder une diversité génétique maximale. On est sur un principe où on se dit qu'on peut perdre 10% de diversité génétique. Après, l'euthanasie, c'est quelque chose qui peut se pratiquer dans certains pays qui n'ont pas du tout la même approche. En France, par exemple, ou dans les pays du Sud. Donc c'est un problème, je dirais, génétique certes, mais culturel aussi.
Ouais.
Voilà. En France, par exemple, on va décider qu'on sépare les animaux, qu'on va les stériliser, qu'on va faire des groupes de mâles pour essayer justement de ne pas arriver à ces extrémités-là.
Oui.
Pourquoi ? Alors, je précise quand même pourquoi on peut en arriver à ces extrémités. C'est parce que nous manquons de place actuellement dans les parcs zoologiques pour accueillir toutes les espèces qui ont besoin d'être élevées ex situ. Et parce que nous avons de tels succès de reproduction avec la recherche derrière, le travail qui a été fait, que ça a explosé ces dernières années. Et des espèces qui sont disparues dans la nature ou au bord de l'extinction se reproduisent parfaitement en parc zoologique. Pour en revenir à mon problème culturel, si vous allez dans les pays du Nord, par exemple, ils considèrent, eux, que séparer les animaux, les castrer, les empêcher de se reproduire, faire des groupes de mâles, ça, c'est barbare. Donc, ils préfèrent fondamentalement les laisser vivre leur vie,
et ensuite régler,
quitte à euthanasier un animal. On n'a pas du tout cette même approche. Et c'est là que c'est pointu, parce qu'on travaille tous à la même chose, c'est-à-dire la conservation de la nature, la préservation de la biodiversité, sauver des espèces qui vont disparaître. Mais culturellement, les gens du Nord privilégient l'espèce systématiquement, alors que nous, gens du Sud, on est plus affectifs, on va privilégier l'individu.
Très intéressant, et puisque vous parliez de conservation et de protection, là, Fabrice Bernard, on est devant une espèce plus que menacée en voie d'extinction, le lynx. Alors, on les voit, ils sont trois dans une aire de repos, c'est marqué lieu de repos. Il y a une petite pancarte avec un petit lynx qui fait dodo, ils ont tout compris parce qu'ils sont là. Ils sont là dans une semi-pénombre. Et ce sont des animaux, il y en a quoi, 150 dans le Jura, dans les Vosges aujourd'hui?
À peine. Mais là, en fait, c'est des animaux qui seront très, très menacés. Donc ceux-là, en fait, on voit le mâle et la femelle qui sont là justement en train d'être à l'ombre, là, avec leur petit qui est juste à côté. Effectivement, donc on indique, on aide un petit peu le public à aller chercher quand la végétation est plus touffue, en mettant des
oui, parce qu'ils ont une tenue camouflage.
Voilà, c'est ça.
Et vous faites bien soin aussi de respecter aussi là en l'occurrence le mâle, la femelle et le petit bébé que vous allez garder chez vous, que vous allez échanger après avec
non. Après, on va pouvoir dans le cadre des échanges l'échanger avec d'autres parcs. Mais ce qui est important aussi, voilà, dans cet enclos là c'est qu'on a des points hauts, des points bas. C'est pas forcément une histoire de surface, et surtout il faut que dans l'enclos tout soit réuni pour que l'animal puisse exprimer tout son éthogramme. Donc ça veut dire que là il peut aller sur des points hauts, des points bas, se cacher, s'éviter, avoir un bassin, chasser des truites. Tout ça c'est important, et tout ça c'est réuni dans un même espace.
C'est pour ça que vous avez mis un bassin avec parce qu'il chasse des truites.
Exactement.
Donc vous avez des poissons? Vous en mettez un peu
plusieurs fois dans la semaine.
Les encourager à chasser.
Voilà, on leur met, c'est ce qu'on appelle nous faire des enrichissements. Donc on leur met un petit peu des truites comme exemple. Et donc ça stimule les animaux, et le reste du temps, ils sont là en train de faire la sieste tranquillement, comme on peut les voir.
Mais ce qui est intéressant, pour revenir sur la surface des espaces justement, ce que vous nous disiez aussi avec les lamantins, c'est que pour peu qu'ils soient en groupe, que vous les nourrissiez régulièrement, alors qu'ils passent en l'état sauvage la majeure partie de leur temps à se déplacer pour trouver de la nourriture, ils peuvent avoir un espace suffisant aujourd'hui. On considère que pour leur bien-être, celui-ci l'est.
Oui, tout à fait. En fait, ils n'ont plus le territoire, les espèces n'ont plus de territoire de chasse. Donc, par contre, nous, on compense ça en apportant suffisamment d'agrès, en apportant suffisamment de volume, de points pour se cacher, pour que l'animal se sente bien.
Alors, regardez, Bruno David, juste soyez nos yeux là. On voit deux petits, ce sont des gloutons qui passent devant nous.
Donc, c'est proche du blaireau, de la fouine, si vous voulez, comme famille animale. Ça vit en Amérique du Nord. C'est un animal.
Je dirais des mini, tout petits ours.
On dirait un petit ours, mais en fait, il faut se méfier. C'est quand même un animal qui peut être assez agressif.
Oui. Et qu'il fasse un ours, c'est pas virulent. Le poids quand même.
Il peut attaquer un ours s'il est en danger. Il ne va pas l'attaquer a priori, mais quand même, il est capable de se défendre contre un ours. Donc, ça vous dit un petit peu l'énergie que développe cet animal. C'est assez incroyable.
Alors, on fait une petite pause. Nous sommes au pied du rocher, 63 mètres de haut. C'est vraiment l'élément historique de ce zoo qui a ouvert en 1934. On continue en balade et on passe devant les loups, les fameux loups ibériques, pour prendre la direction de l'enclos des babouins que vous connaissez peut-être. C'est une espèce aussi assez symbolique de ce parc zoologique de Paris. À tout de suite sur Europe 1.
C'est un vaste terrain situé tout près du bois de Vincennes, le parc zoologique de Paris, que nous fait visiter Wendy Bouchard ce matin. Elle y est en direct jusqu'à 10h.
Et oui, on était en Amazonie tout à l'heure. On était en Amazonie-Guyane, on est passé par une partie de l'Europe. Et là, alors on se retrouve quasiment en Sainte-Marie-de-la-Mer. Imaginez-vous une étendue d'eau avec un groupe magnifique de flamants roses, Fabrice Bernard. C'est un écosystème que vous avez reproduit. On est sous une volière, ces animaux sont en totale liberté autour de nous.
Oui, tout à fait. Ici, il y a à peu près une trentaine d'espèces d'oiseaux qui cohabitent toutes entre elles. Et là, en ce moment, on est devant effectivement les flamants roses qui ont commencé leur période de reproduction. Et là, vous voyez que les nids sont en formation et qu'on a à peu
ces
près...
petits monticules de terre ne sont pas des taupes, ce sont les nids des flamants roses.
Voilà, alors c'est les nids des flamants roses.
De la terre, alors, de la boue.
Tout à fait. Sur la terre mélangée un petit peu avec de l'eau, donc du coup, ils peuvent construire beaucoup plus facilement comme ça, quoi. Ouais, et derrière, donc, on a des animaux qui ont pondu.
C'est magnifique et voilà, il y a beaucoup d'oiseaux représentés, il faut le dire, aussi dans ces 1200 espèces aux zoos de Vincennes.
Tout à fait, ouais.
Parc zoologique de Paris, pardon, j'ai encore ce réflexe, Bruno David. Pourquoi on a dit d'ailleurs pendant des années zoo de Vincennes dans la
Parce
qualification
que c'est la proximité
rapide.
Avec la ville de Vincennes.
Ah oui, on est à l'orée du bois aussi. Hein.
Mais en fait, techniquement, on est sur la commune de Paris et c'est plus correct de dire zoo de Paris, en fait, pour l'abréger.
Alors là, on déambule encore et ce seront nos derniers pas dans ce parc que je vous recommande. Il y a 14 hectares, une fois de plus. On n'a pas fait un tour exhaustif et on se dirige vers l'enclos des babouins. Alors là, on est au pied du rocher, qui n'est pas un rocher juste d'apparat, j'allais dire, Fabrice Bernard, parce qu'il renferme en fait un château d'eau.
C'est ça. En fait, il renferme deux... On appelle ça des bâches, en fait, des cuves d'eau. Donc un réservoir de 1300 mètres cubes et un autre de 800 mètres cubes qui permet donc de distribuer l'eau dans le zoo. Quoi, dans
tous les bassins.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est une sorte de, il fait 65 mètres de haut, ce rocher. Et c'est... le dernier vestige de l'ancien zoo hein, du XXe siècle.
Ouais, c'est ça, donc zoo ancien format.
Voilà, qui a été refait dans les années 80, fin des années 90.
À droite, là, ils sont en train de construire un enclos, là, je vois.
Oui.
Enfin, un terrain, en tout cas. C'est quoi, ça, Bruno David?
Ça sera pour accueillir des suricates. Ah. Donc, c'est sur un endroit qui est vraiment très, très beau, parce qu'on a une vue sur la plaine du Soudan, avec les girafes et les autruches. Et en même temps, on aura les suricates avec le rocher en arrière-plan de l'autre côté. Ça va être absolument superbe. Et ça sera pour cet été.
Alors là, on termine, chers amis, devant l'enclos des babouins. Et on a des animaux qui sautent d'arbre en arbre, qui font leurs exercices, leurs étirements matinaux. Il faut dire qu'ils viennent de sortir de leur enclos, Fabrice Bernard. Donc, ils ont envie aussi de se détendre. Ils sont superbes. Combien sont-ils, là?
Alors, on a un groupe. Le groupe principal est composé de 54 individus.
Oui.
Donc, on a 4 mâles dominants qui donc, se partagent les 50 autres femelles.
Ce sont 4 mâles qu'on a devant nous, d'ailleurs. Hein.
Voilà, enfin, ouais. Exactement. Oui. Et donc, du coup, la grandeur de l'enclos fait que, du coup, ces 4 groupes peuvent cohabiter... entre eux, sans trop de conflits.
Eh ben, c'est bien de terminer ici notre balade, Laurence Paoli, parce qu'ils sont très en forme. Et puis surtout, ce nouvel enclos, cet espace qui est entouré de baies vitrées, nous permet d'être quasiment avec eux, mais en respectant une fois de plus leur L'animal. Espace vital.
Tout à fait.
On est dans cette nouvelle philosophie des zoos que vous mettez en avant aussi dans votre livre.
Tout à fait. Oui, on est parfaitement là-dedans. On peut observer les babouins qui nous observent tout autant d'ailleurs qu'on les regarde et qui vivent leur vie de babouin. Là, visiblement, ils sont dans des interactions entre eux, ils ont l'air contents et tout fonctionne. Et puis en plus, moi j'ai un petit coup au cœur en voyant cet enclos puisque j'ai connu le Vincennes d'avant qui avait effectivement un espace pour les babouins moins bien organisé que celui-ci, mais qui était assez proche. Et c'est assez drôle, ce rappel du passé, en fait, pour ces animaux.
Mais qui a évolué de belle manière.
Qui a évolué de très belle manière.
Il paraît, Fabrice, qu'il ne faut pas regarder les babouins dans les yeux en levant les sourcils.
Bah, c'est un peu une menace pour eux. Donc, effectivement, il faut baisser les yeux parce qu'ils se sentent menacés.
Sinon. Oui, alors les babouins au parc zoologique de Vincennes, ce sont les seuls singes qui sont représentés. Les grands singes, j'allais dire, je ne sais pas si on peut parler de grands singes précisément, Bruno David, mais par exemple, à la ménagerie du Jardin des Plantes, vous avez des orangs-outans. Ici, on n'a pas fait le choix d'en avoir, ni de chimpanzés d'ailleurs, ni de gorille.
C'est les plus grands singes qu'on ait ici au parc zoologique de Paris. Et les autres grands singes, effectivement, sont à la ménagerie. On distingue en fait dans l'évolution des singes qui ont une queue, puis des singes qui n'ont pas de queue. Les singes qui n'ont pas de queue sont plus proches de nous.
Oui.
Et nous n'avons que des singes avec des queues ici.
Et qui leur servent de balancier. Et en effet, ils ont un équilibre incroyable. Oui, ils sont en train de tester la solidité de la structure.
Ils sont assez destructeurs, il faut dire. Ils creusent, ils sont capables de choses assez incroyables.
Alors,
il faut régulièrement réparer
l'enclos. Il nous dit, mon petit, j'ai beaucoup à vous apprendre. Hein. C'est ça, alors ce regard magnifique. Ils sont là pour aussi vous transmettre ce message de respect de la nature, de respect de l'environnement, de la meilleure connaissance des espèces, Fabrice Bernard. Et j'aimerais que nous terminions aussi sur ce message-là. On peut parrainer des animaux pour mieux entrer en communication avec leur environnement. On peut parrainer, par exemple, des jaguars, on peut parrainer des babouins. C'est-à-dire qu'on envoie un chèque et on est tenu aussi au courant de la politique en fait, autour de lui.
C'est une manière de soutenir à la fois le parc zoologique de Paris, mais c'est aussi une manière de soutenir les espèces et leur préservation dans la nature. Par exemple, le muséum diligente des opérations de recherche et de préservation à Madagascar pour des Propithèques couronnés, qui sont des lémuriens magnifiques, que nous avons également ici en captivité. Et les parrainages servent aussi à ces actions de soutien de la biodiversité dans la nature, sur place, et pas seulement dans les eaux.
Alors nous sommes vendredi, demain soir il y a un petit événement, c'est-à-dire que vous avez des visiteurs qui ont gagné une nuit au parc zoologique de Paris, donc ils vont dormir notamment avec les lamantins. Ça, c'est ce soir ou c'est demain soir?
C'est ce soir. À côté, dans l'eau quand même.
Pas en apnée, mais à côté ça va être un beau spectacle. Et voilà aussi la politique de sensibilisation, de pédagogie. Il y a de grands défenseurs des animaux, de grands primatologues qui ont commencé leur carrière en visitant un parc zoologique. Je pense à Sabrina Krief, à Emmanuel Puydebas, à tant d'autres aussi qui font un travail magnifique au quotidien pour le compte du CNRS et du Muséum national d'histoire naturelle, souvent. Merci infiniment de cette balade.
Merci
avec
beaucoup,
vous.
Annie.
Fabrice Bernard, chef soigneur au parc zoologique de Paris, qui représentait aussi tous ses professionnels associés. Bruno David pour le Muséum national d'histoire naturelle. Merci, monsieur le président. Et Laurence Paoli, je recommande votre livre Zoo, un nouveau pacte avec la nature. On en apprend encore beaucoup chez Buchet-Chastel.
Merci beaucoup
à tous. J'espère qu'on vous a donné envie de visiter ce zoo en particulier, mais d'autres aussi, dans cette logique de sensibilisation, ma chère Julie. Je vous laisse. Et puis, vous allez écouter du Sardou avec nous.
C'est ça. Jusqu'à 11h, 10 à 11h, hommage à Michel Sardou.
Merci à David Vigil et toute son équipe et tous mes amis.
9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.